lis d'abord une question. Si chaque personne est bonne en tant qu'elle existe, son acte d'amour, son acte d'aimer, ajoute-t-il quelque chose à sa bonté? En effet, on dit que son amour la qualifie. Notre bonté personnelle nous dépasse-t-elle complètement et donc ne dépend pas de nous? Ou bien une personne est-elle plus ou moins bonne? C'est en effet le dernier point que nous traitons sur l'acte. C'est la ratio boni parmi les transcendentaux. La ratio boni est convertible avec l'être. La ratio boni, c'est l'intelligence qui la saisit. Elle est dans la réalité. C'est le bien existant dans la réalité. Et on la saisit selon un mode analogique. Et c'est à l'égard du bien que le principe de finalité s'exerce de la manière la plus parfaite. Tout bien nous attire. Même le bien sensible. En temps de carême, le bien sensible nous attire plus qu'en temps ordinaire. Parce qu'en temps de carême, on a pris une résolution de dépasser tous les biens sensibles pour s'alléger. Si on se pesait avant le carême et à la résurrection, on aurait, à titre de poids, la qualité de notre carême. C'est pour ça qu'on ne le fait pas, parce que ce serait purement quantitatif. Le bien ne se mesure pas. Le bien ne se mesure pas. C'est à l'égard du bien que l'analogie de l'être se réalise le plus parfaitement. Et pour nous, c'est à l'égard du bien que la manifestation de la connaissance analogique se fait le mieux. Et ceci, c'est saint Thomas qui nous le dit. Et c'est très important de comprendre ce que nous allons essayer de voir, que c'est dans saint Thomas, ça. Quand saint Thomas nous dit, tout bonnement, tout simplement, que pour les réalités supérieures à nous, les réalités supérieures à nous, c'est Dieu et le prochain. Puisque tant que vous regardez le prochain comme inférieur à vous, vous ne l'aimez pas beaucoup. Il faut découvrir que le prochain a des qualités que vous n'avez pas et qu'il est supérieur à vous. Le prochain est toujours supérieur à nous parce que il est celui qui s'impose à moi. Il est bon. Et il a une misère que je dois aider. Pour toute toutes les réalités supérieures à moi, à nous. Il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est-à-dire que la connaissance, que l'amour permet de découvrir d'une façon plus profonde ce qu'elles sont que par mon intelligence. Ça, il faut y réfléchir beaucoup à cette parole de saint Thomas, parce que ça évite de faire de saint Thomas un rationaliste. Ce que, hélas, beaucoup de thomistes font, parce qu'ils n'aiment pas assez, et n'ont pas compris que saint Thomas est un saint. Si saint Thomas avait ramené le bien à la raison, il ne serait pas un saint. Saint Thomas a compris que l'amour qui se réalise en nous, en face du bien, est supérieur à tout. Même humainement, une philosophie qui n'a pas compris ça est une philosophie qui blesse notre cœur et notre volonté. Kant, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Et c'est très grave, puisque c'est un sommet. Pas comprendre un bas fond, ça n'a pas grande importance. Et pas comprendre un sommet, ça se répercute dans toute la philosophie. Dans tout le jugement de sagesse. Alors, pour répondre à cette question, il faut justement bien saisir ce que c'est que la ratio boni. Si chaque personne est bonne en tant qu'elle existe, puisque la ratio boni est convertible avec la ratio d'être, donc on peut dire que chaque personne est bonne en tant qu'elle existe. Son acte d'aimer ajoute-t-il quelque chose à sa bonté? En tant qu'il existe, est-ce qu'il existe d'une manière parfaite? Est-ce qu'il existe comme une existence suprême? Non. Mon existence n'est pas l'existence suprême. Parce que j'ai mon voisin qui existe aussi. Et ça, vous constatez tout de suite que votre voisin existe. Et que vous existez. Et vous ne pouvez pas dire, au point de vue de mon existence, je suis supérieur à toi. Si votre voisin vous disait ça, je suis supérieur à toi en tant que j'existe. Alors, non. Pauvre type. Tu te crois Dieu. Oui. Quand quelqu'un nie l'existence de Dieu, au fond, il veut être premier dans l'existence. Parce que c'est embêtant d'avoir Dieu en face de nous, dans l'ordre de l'existence. Il ne voit pas ses limites. Ses limites existentielles, les limites de son être. Nous sommes limités dans notre être. Nous sommes limités dans le bien. Je ne suis pas le bien. Je suis un certain bien. Je suis une certaine existence. Alors, par le fait même, son acte d'aimer ajoute-t-il quelque chose à sa bonté? Mais c'est évident. parce qu'il peut croître en bonté. Il peut exister d'une façon plus parfaite. Il croit en bonté. Dès qu'il aime, il croit en bonté, il augmente en bonté. Dire que le bien est conforme et convertible avec l'être, ça ne veut pas dire que tel bien est le bien suprême. Tel bien particulier, créé, peut être meilleur. Toutes les réalités bonnes peuvent être meilleures. Il y a du plus et du moins dans la bonté. Et la bonté est le lieu le plus parfait de la croissance. C'est dans la bonté que vous constatez le mieux votre croissance dans l'être. Et vous constatez la croissance dans l'être en ce sens que vos forces physiques peuvent diminuer. Et elles diminuent. Il y a un sommet dans nos forces physiques. Et puis à partir de ce sommet, les forces physiques déclinent. Est-ce que les forces, est-ce que l'existence diminue? Est-ce que la bonté diminue? Non. La bonté fondamentale ne diminue pas. Elle peut croître tout le temps. Au point de vue de l'intelligence, au point de vue de la recherche de la vérité, vous pouvez croître tout le temps. Il n'y a pas de limite dans la croissance de votre connaissance métaphysique. La connaissance de la ratio boni se fait toujours plus parfaite. La connaissance de la ratio boni, de la raison d'être, se fait elle aussi toujours plus parfaite. Et ça, nous pouvons le constater. Alors, évidemment, il peut y arriver que le poids du corps et de la maladie et de la vieillesse, le poids du corps se fait toujours plus sentir. Pour un vieillard, c'est difficile de nier la réalité du corps. Pour un jeune, en élan, il peut facilement nier la réessence du corps. Parce qu'il y a en lui une poussée dynamique. Tandis qu'au contraire, le vieillard, la poussée dynamique n'existe plus beaucoup du côté du corps. C'est plutôt l'inverse. Mais s'il est attentif, s'il continue de penser, parce que beaucoup de vieillards ne pensent plus. Prenez dans une des familles, le vieux grand-père est dans un fauteuil, il fume toute la journée. Alors, il ne pense plus beaucoup. On fait tout pour arrêter la pensée. En faisant qu'il soit bien, bien choyé, d'un point de vue sensible. Et le vieillard est plus sensible que lorsqu'il était jeune. Parce que quand il était jeune, il avait son activité, et son activité faisait qu'il ne pensait plus à lui. Il était dans son activité. Son activité n'existant plus, physiquement, il pense à lui. elle pense beaucoup plus à lui. Si il n'arrive pas à une pensée philosophique, une pensée métaphysique. Or, s'il n'est jamais arrivé à la métaphysique de son vivant quand il était jeune, ce n'est pas lorsqu'il vieillira qu'il arrivera à y penser. Et donc, la pensée de lui-même est toujours en progrès. Et la pensée contemplative diminue. Donc, vous voyez, je reprends. Si chaque personne est bonne en tant qu'elle existe, son acte d'aimer ajoute-t-il quelque chose à sa bonté ? Oui. Parce que nous sommes limités substantiellement et que toutes nos activités d'amour augmente notre existence, augmente notre bonté. En effet, on dit que son amour la qualifie. Son amour le qualifie et augmente sa bonté. Parce que je peux croître dans l'ordre de l'être. Ma croissance touche mon être. C'est pas parce que je dis que la substance est indivisible que la substance n'est pas source d'une croissance de vie. Notre bonté personnelle nous dépasse-t-elle complètement ? Notre bonté personnelle nous dépasse-t-elle complètement et donc ne dépend pas de nous ? Ou bien une personne est-elle plus ou moins bonne ? Une personne est plus ou moins bonne. Notre bonté personnelle nous dépasse-t-elle complètement ? Non. C'est nous. Notre bonté personnelle, c'est notre existence, c'est nous. Vous voyez ? Si nous distinguons energeia et entelekeia, cette distinction philosophique que nous avons déjà saisie, elle s'applique d'une façon magistrale dans le fait de la bonté. Nous sommes bons ontologiquement dans notre être. Mais nous sommes des vivants. Et des vivants ordonnés à une finalité. Plus je suis proche de ma fin, plus je suis actué. Et par le fait même, plus je suis bon. Ma bonté elle augmente dans la mesure où je suis finalisé. Dans la mesure où je suis finalisé, je suis bon. Or, normalement, plus je vieillis, plus je vis, plus je suis finalisé. Normalement, un homme de 50 ans est plus finalisé qu'un homme de 30 ans. La finalité, c'est-à-dire la recherche du bien, est plus profonde chez un être de 50 ans que de 30 ans, que de 18 ans. à 18 ans, l'exaltation imaginaire de ma finalité peut me saisir davantage, c'est sûr. Je peux être plus emballé parce que ma finalité m'apparaît comme quelque chose de merveilleux. Mais en réalité, ma finalité se décante, elle s'approfondit, et j'aime d'une façon plus profonde. Je suis plus facilement victorieux des luttes, parce que je suis plus fort dans mon amour. Être plus fort dans son amour, c'est d'être plus finalisé. Alors, plus je suis finalisé, plus je suis bon. Vous voyez ? Plus je suis finalisé par le bien, le bien qui m'attire, plus mon amour est grand. Alors, je pose là le problème du bien. Le bien est acte d'être. Le bien, il existe par lui-même. Il implique l'existence. Le bien n'est pas idéal. N'est pas un idéal. Le bien est une réalité bonne. Le bien contient en lui-même l'existence. Il existe, le bien. Le bien comme tel, il existe. C'est le bien de telle personne. C'est le bien de telle nature. Le bien implique le fait d'exister. Vous n'avez pas dans la notion du bien l'abstraction. Un bien abstrait, ce n'est pas un bien. C'est un idéal. L'idéal n'est pas le bien. Arriver à distinguer les deux. L'idéal, c'est par définition quelque chose qui n'existe pas. Qui peut exister, mais qui n'existe pas. C'est un idéal. Donc, l'idéal, il monte en moi dans la mesure où la forme, ce qui le détermine, grossit, augmente. L'idéal s'impose à moi comme ce qu'il y a de meilleur. L'idéal, c'est très bien, ça me donne la force d'avancer. Mais l'idéal n'existe pas. Il existe dans mon imagination. Tu as un idéal de vie. On ne vit pas pour un idéal de vie. Quand on est jeune, oui. Mais dès qu'on prend un certain âge, on vit pour le bien existant. Le bien, c'est toujours une réalité qui existe. Et c'est toujours, pour nous, une personne qui existe. Parce que le bien peut être spirituel ou matériel, en tant qu'il existe. Le bien spirituel, c'est toujours une personne. Le bien matériel n'est pas une personne. C'est une réalité physique qui s'impose à moi et que j'aime passionnément. Le bien physique éveille en moi la passion. Le bien spirituel éveille en moi un amour spirituel qui réclame la réciprocité. Tout amour spirituel qui porte sur une personne réclame la réponse. Et donc, tend à devenir une amitié. La réciprocité de deux amours spirituels. Je fais cette distinction très nette. Et ça, nous pouvons le faire. La distinction entre l'amour passionnel et l'amour spirituel. L'amour passionnel, c'est l'amour vis-à-vis d'une réalité sensible. Cette réalité sensible comporte au point de départ un aliment, un petit gâteau. On a l'expérience tous de ce que c'est que le bien sensible et la passion que nous pouvons avoir. Quand on est jeune, la passion à l'égard des gâteaux diminue dans la mesure où notre cœur, notre volonté s'ouvre davantage à un bien spirituel. Le bien sensible éveille en nous la passion. Bon, nous avons tous expérience de ce que c'est que la passion. La passion provient d'un bien sensible que nous connaissons et qui éveille en nous la passion. La passion n'est pas convertible avec notre être. La passion, c'est un amour sensible qui développe toute la partie sensible qui est en nous et qui ne développe pas la partie spirituelle. La passion demeure dans notre corps et demeure quelque chose de limité qui ne nous fait pas atteindre notre propre finalité. Nous mesurons tout de suite la passion à notre corps. C'est notre corps qui est pris par la passion. Il peut nous saisir très fort parce que c'est très conscient. Et nous voyons toutes les modalités de la passion. Nous pouvons aimer passionnellement un petit chien. Ça arrive. On peut aimer passionnément un petit chat. Et on les dorlote comme si j'étais un petit enfant. On peut aimer passionnément un cheval. Et ainsi de suite. La passion développe en nous toute la partie sensible. Et elle nous développe cette partie sensible d'une façon très forte, très passionnée. La passion, c'est quelque chose que nous sentons très bien, qui nous éveille et qui nous empêche quelquefois de dormir. Quand vous êtes très passionné, vous ne dormez pas. Il faut que la passion se passe avant que le sommeil arrive. Ça, on fait tous cette expérience-là. On voit très bien ce que c'est que la passion. Et philosophiquement, c'est très important de voir à quel niveau se développe la passion. Elle est très humaine, la passion. Et on doit arriver à dominer nos passions. La prudence domine la passion. Et nous avons en nous la possibilité d'aimer une personne. Dès qu'on aime une personne, on peut l'aimer passionnément. Mais quand on aime passionnément une personne, on n'aime pas la personne. On aime passionnément ses yeux, son regard. On l'aime passionnément en tant que c'est une réalité physique à cause de son corps. C'est son corps qu'on aime passionnément. Mais on peut arriver à découvrir en nous la possibilité d'un amour spirituel. Aimer une personne. L'amour spirituel peut s'éveiller et se développer quand on aime une personne. Quand on s'aime soi-même, est-ce qu'on aime une personne ? Alors, quand on aime soi-même, on peut s'aimer à des niveaux différents. On a l'expérience d'un amour de soi sensible. On sait qu'on n'est pas si mal. On sait qu'on a pu attirer l'amour de certaines personnes. Alors, on arrive à dire, puisque j'éveille l'amour chez certaines personnes, ça prouve que je ne suis pas si mal. On fait ça inconsciemment. On ne le dit pas tout haut. Mais au fond, on s'aime. L'amour de soi appelle l'amour de l'autre. Ah, ça. Est-ce que l'amour de l'autre est premier à l'amour de soi? Grave question, ça. Est-ce que j'aime les autres parce que je m'aime? Ou est-ce que j'aime moi-même en premier lieu, ou les autres en premier lieu? Ça, laissons cette question-là, c'est une question très importante. Est-ce que l'amour, c'est premièrement l'autre? Ou l'amour, c'est premièrement moi? Est-ce que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer? Ou est-ce que l'amour des autres éveille mon amour de moi? On peut discuter beaucoup de cette question-là. Et c'est intéressant pour savoir si l'amour de soi, c'est un bien immédiat qu'on connaît et qu'on possède. L'amour de l'autre, c'est un bien qu'on désire, qui nous fait sortir de nous amour de l'autre appelle notre amour. Parce que j'aime l'autre, je m'aperçois que je m'aime grâce à cet amour. Et quand justement j'aime l'autre, j'arrive à m'aimer, et c'est très vrai, celui qui ne s'aime pas a beaucoup de peine d'aimer les autres. Celui qui s'aime, lorsque ce n'est pas un amour excessif, aime les autres. Et c'est comme ça que cet amour des autres peut devenir réciproque et entraîner un amour d'amitié. Et l'amour spirituel est parfait. Est parfait humainement dans l'amitié, où j'aime l'autre parce qu'il m'aime, et j'aime l'autre de plus en plus parce qu'il m'aime. C'est réciproque, mais je l'aime pour lui. L'amour de soi peut être une condition, mais n'est jamais ce qui spécifie mon amour dans l'amitié. L'amour d'amitié est pour moi le moyen le plus adéquat de dépasser l'amour de soi-même. L'amour de soi-même peut me gonfler de telle manière que j'aime tous les autres en raison de moi-même. Alors, en réalité, je ne les aime pas. Et donc, l'amour spirituel s'éduque. L'amour passionnel, il m'est donné, et je peux l'éduquer aussi, pour arriver à faire que cet amour passionnel ne gêne pas mon amour spirituel. L'éducation de l'amour passionnel, c'est de faire que cette passion soit toujours relative à un amour plus parfait. Et ça, c'est très important, tu comprends ça ? L'amour passionnel n'est pas mauvais dans la mesure où il se laisse dépasser. Mais l'amour passionnel devient mauvais dans la mesure où il empêche un amour spirituel. Nous devons être suffisamment conscients pour discerner l'amour passionnel de l'amour spirituel. Mais de voir que tout amour spirituel a impliqué, implique un amour passionnel. Parce que nous sommes des êtres sensibles. Mais l'amour spirituel fait que l'amour passionnel est dépassé. Si l'amour passionnel s'impose de telle manière que c'est lui qui mesure mon amour spirituel, alors c'est terrible. Je demeure enfoui dans mon amour passionnel et je ne dépasse jamais. L'amour passionnel a cette puissance sur moi qu'il peut m'aveugler. Quand on est très passionné, on ne s'aperçoit plus qu'on est passionné. Parce qu'on n'a pas dépassé la passion. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pour soi et pour les autres. Dans notre vie d'apôtre, on rencontre des gens passionnés qui demeurent dans leur passion. Ils sont d'une jalousie farouche. Parce que l'amour de soi rend jaloux. Et quand l'amour de soi est exclusif, c'est la jalousie qui demeure et qui dépasse tout. La jalousie empêche l'amour passionnel d'être dépassé. Et c'est l'amour de soi qui domine. Ça fait partie de l'éducation même de l'amour passionnel. Quand l'amour passionnel est dépassé par un amour spirituel, il n'y a plus de jalousie. L'amour spirituel lutte contre la jalousie. Parce qu'on aime l'autre pour lui. Tandis que dans la jalousie, on s'aime plus que l'autre. Et c'est à cause de ça que la jalousie nous empêche d'aimer, nous replie sur nous. Et nous possédons en nous ces deux aspects, l'amour passionnel et l'amour spirituel. L'amour spirituel nous fait découvrir la personne. Le bien spirituel, pour nous, c'est toujours une personne. Vous ne pouvez pas avoir un amour spirituel pour la nature. La nature de quelqu'un, il a une très bonne nature. Ça. L'amour spirituel porte toujours sur une personne. C'est pour ça que l'amour spirituel réclame l'amitié et demande l'amitié. Et que l'amitié n'est plus quelque chose de secondaire, mais devient quelque chose d'essentiel. Au point de vue, je parle au point de vue philosophique, hein. Au point de vue divin, c'est différent. Mais au point de vue philosophique, l'amour d'amitié est essentiel. C'est du reste une raison pour laquelle Aristote traite de l'amitié de la manière infiniment plus longue que les vertus. C'est très significatif, ça. Il y a un nœud qui est très très important pour la connaissance du bien personnel, donc de la connaissance du bien, l'amour spirituel. C'est dans l'amitié que nous avons l'expérience de l'amour spirituel de la personne. Dans l'amour de la personne, nous distinguons le bien objectif de la personne qu'on aime et l'aspect subjectif de l'amour que nous lui donnons. Puisque cet amour spirituel est lucide. Tandis qu'on ne peut pas faire cette distinction au niveau de la passion. La passion est subjective et on est enfermé dans le point de vue passionnel. Dès qu'il y a l'amour spirituel, on distingue les deux. Et ça, c'est capital. distinguer le bien spirituel et l'amour. Entelekeia, energeia. Tout de suite, la distinction se fait. Au niveau passionnel, vous ne pouvez pas faire la distinction. C'est pour ça que c'est très difficile de s'éduquer soi-même au niveau passionnel. On a très souvent besoin, l'enfant a besoin d'être éduqué par un maître pour dépasser l'amour passionnel. Et on y retombe tout le temps. La passion, elle grandit avec notre corps. La passion, elle est de plus en plus forte avec notre sensibilité. Et on ne peut pas, dans la passion, arriver à faire la distinction entre energeia et entelekeia. C'est pour ça que la passion poussée à l'extrême, c'est la fusion. Ce que les psychologues distinguent bien, l'amour fusionnel, et l'amour fusionnel, c'est la passion qui ne distingue plus et qui ne peut plus distinguer entre l'objectivité et la subjectivité. Puisque l'objectivité se donne dans la subjectivité. Alors que dans l'amitié, on distingue bien le point de vue subjectif et le point de vue objectif. Dans l'amour d'amitié, donc l'amour spirituel, on distingue bien le bien personnel, l'ami. L'ami, c'est le bien personnel. C'est lui que j'aime. C'est pour lui que je me dévoue. C'est pour lui que je me donne. Et l'aspect subjectif, qui justement est l'amour que j'ai pour lui. L'amour que j'ai pour lui est une qualité de mon être. Et cette qualité de mon amour est tout entier ordonnée à l'ami. Et c'est l'ami qui m'attire. Et j'ai conscience de cette attraction de l'ami comme ami. Le bien objectif qui m'attire. Cette réalité très mystérieuse d'un bien spirituel qui m'attire, qui exerce sur moi une attraction. Qui est suffisamment forte pour me faire sortir de moi et aimer. Dans l'amour spirituel, je découvre combien l'amour est extatique, fait sortir de moi et me fait regarder l'autre, regarder l'ami que j'aime. Je peux, à ce moment-là, distinguer le point de vue objectif du bien. L'ami est mon bien. Il est mon bien qui m'attire. Il est mon bien qui exerce sur moi cette force d'attraction. Cette force qui me fait aimer. Et cette force qui me fait aimer me fait sortir de moi-même. Je j'arrive à distinguer les deux. Et je ne peux le distinguer qu'au niveau proprement de l'amour spirituel. Je découvre l'ami comme le bien qui m'attire, comme le bien qui me donne la force de bien aimer et de l'aimer. Il y a donc dans l'amour d'amitié une découverte très importante de la ratio boni que je découvre dans la personne de l'ami. Il est mon bien. Et ce bien éveille en moi, suscite en moi l'amour. Et cet amour que le bien suscite en moi me fait sortir de moi-même, me permet de sortir de moi-même et d'atteindre l'autre, de devenir tout entier relatif à l'autre, à l'ami. Je découvre alors à ce moment-là que le bien qui m'attire, que ce bien éveille en moi l'amour. Mon amour pour mon ami fait que je deviens le bien de mon ami. Et devenant le bien de mon ami, je distingue d'une façon très nette la différence entre l'amour et le bien. Je le distingue à titre d'expérience, puisque je suis le bien de mon ami en l'aimant. C'est en aimant mon ami que je deviens son bien. Je l'étais avant, parce que ce que je suis est son bien. Ce n'est pas mon amour qui est son bien, c'est ce que je suis. Mais je découvre que je suis son bien en l'aimant. C'est en l'aimant que je découvre que je suis son bien. Et j'arrive à distinguer donc les deux aspects, l'aspect objectif du bien qui est mon acte, l'aspect subjectif de l'amour qui est l'effet du bien en moi. Et l'effet du bien en moi, c'est cet amour qui naît à l'égard de mon ami. J'ai là l'expérience la plus nette et la plus profonde de ce que représente le bien. Vous voyez, j'expérimente le bien par l'amour. Et l'amour est suffisamment lucide pour voir la différence entre l'amour subjectif et le bien objectif. Et je vois alors que le bien implique l'existence, implique dans sa raison de bien, dans la ratio boni, la perfection, et plus que la perfection, un pouvoir d'attirer l'attraction. Le pouvoir de faire sortir de moi-même. Et que le bien implique toujours l'existence. Je vois la différence entre le bien et l'idéal, qui serait justement la raison de bien qui n'est plus saisie à l'intérieur de l'amour et qui serait une réflexion de l'intelligence sur ma manière d'aimer. Si je regarde ma manière d'aimer et que je m'arrête à cette manière d'aimer, je peux très bien, à ce moment-là, idéaliser. J'idéalise mon ami et je ne suis plus mesuré par mon ami. C'est sûr que la raison de bien, puisqu'elle me fait sortir de moi, peut très bien être source d'une idéalisation. C'est sûrement l'amour, je ne dis pas le bien, c'est sûrement l'amour qui me dispose le plus facilement à idéaliser. Ne plus m'arrêter à mon ami qui existe et qui est source pour moi d'amour. Et je deviens par moi-même source d'amour en idéalisant l'amour. Parce que idéaliser l'amour, c'est faire que ce n'est plus l'ami qui m'attire, ce n'est plus l'ami qui me fait aimer, c'est moi-même qui alimente mon amour. Parce que je suis heureux d'aimer. J'accapare d'être heureux d'aimer. Et je ne suis plus totalement ordonné à l'autre. C'est là la perversion de l'amour d'amitié. La perversion d'amour d'amitié, c'est de quitter ce réalisme de l'amour, ce réalisme de l'ami, qui seul peut susciter en moi l'amour, et de ne regarder que moi-même comme source d'amour, comme idéalisant l'amour.